L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le Fidèle Information a deux titres. Des fortes perturbations du réseau téléphonique sont constatées depuis presque deux semaines au sud Kivu. Les abonnés enregistrent des pertes de leur forfait Internet et ou d'appels ainsi que des manques à gagner dans leurs activités qui exigent la connexion Internet. Les sociétés de télécommunications sont appelées à améliorer la qualité des services qu'elles offrent aux consommateurs. Les combats se poursuivent dans les hauts plateaux de Fizi et cela accentue le blocus sur la commune rurale de Minembwe avec une dégradation de la situation humanitaire. Sur place, les prix des produits ont pris de l'ascenseur. Une plaquette de paracétamol se vend désormais à 15 000 francs congolais et un verre de sel à 25 000 francs congolais. Voilà donc tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Les offensives militaires se poursuivent dans les hauts plateaux des territoires de Fizi et Mwenga, au sud Kivu. En effet, les deux parties au conflit, à savoir les forces armées de la RDC et l'AFC M23 Truaneo, continuent de combattre sur les fronts. Alors que les forces armées de la RDC avaient annoncé avoir avancé jusqu'aux alentours des Minembwe Centre, les dernières informations parlent d'une riposte des troupes de l'AFC M23 qui les aurait délogés des villages de Bidegu et Kakenge, respectivement, en territoire de Mwenga et Fizi. Ces villages seraient sous occupation des troupes de l'AFC M23 Truaneo depuis lundi 22 juin dernier, tandis que les FARDC et leurs alliés se sont repliés à point zéro. Cette nouvelle escalade de la violence continue de provoquer des dégâts majeurs au sein de la population, notamment avec des morts enregistrées. L'on rapporte également l'incendie des maisons et actifs agricoles dans les champs, ainsi que des cas de pillage des biens des populations par les éléments armés. Entre-temps, le blocus sur la commune rurale de Minembwe reste un facteur majeur de dégradation de la situation humanitaire, indiquent des acteurs de la société civile, joints par la rédaction de Radio Mandeléo. Sur place, les prix des produits de première nécessité ont carrément galopé alors que la plupart ont disparu du marché. C'est notamment un verre de sel qui se négocie entre 15 000 et 25 000 francs congolais, un kilogramme de sucre à plus de 50 000 francs congolais et une plaquette de paracétamol qui se vend entre 12 000 et 15 000 francs congolais, indique une source sur place. Cette source parle du blocage de tous les accès par voie aérienne, tout comme par voie routière et l'absence des organisations humanitaires, d'où l'appel à la désescalade militaire afin de relancer les programmes d'aide et permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Et la surveillance épidémiologique accrue, la sensibilisation communautaire et l'installation des points de prélèvement de la température et des lavages de mains, c'est entre autres dispositions prises par la zone de santé d'Ouvira pour prévenir l'expansion du virus Ebola vers cette partie du sud Kivu. C'est ce que fait savoir Saïdi Mufitini, chargé des communications de la zone de santé d'Ouvira. Il fait savoir que ces mesures ont été prises à la suite de la déclaration de l'épidémie d'Ebola au sud Kivu avec des cas déclarés dans la zone des santé des Mitsimuresa. Saïdi Mufitini renseigne que des commissions ont été constituées dans la zone des santé d'Ouvira avec pour chacune des tâches spécifiques en vue d'organiser la riposte. Il s'agit à titre illustratif de la commission prévention et contrôle d'infection qui a déjà installé des points de lavage aux entrées de la ville et même à Luvungi dans la plaine de la Ruzizi, ainsi que la commission sensibilisation qui poursuit une campagne à travers les médias. Il appelle également la population d'Ouvira au respect strict des mesures barrières pour une prévention collective efficace. Saïdi Mufitini en parle dans cet extrait.
Et la zone santé, avec l'appui de la DPS, ils ont organisé une coordination dans laquelle il y a des commissions. Dans ces commissions, chaque commission est chargée d'une tâche spécifique. C'est ainsi, par exemple, au niveau des commissions des PCI, prévention et contrôle des infections. Nous avons installé des points de lavage des mains et surtout que les cas sont signalés à Bukavu, précisément dans la zone santé de Mitimuresa. Nous avons installé un point au niveau de Luvungi pour que tout celui qui entre ici à Uvira puisse passer par là et surtout se laver les mains correctement parce que c'est parmi les mesures de protection. Et donc chaque commission est en train de faire un travail. Évidemment, à Uvira, on n'a pas de cas. Et comme on n'a aucun cas d'Ebola au niveau d'Uvira, nous sommes dans la phase préparatoire. Préparatoire, c'est-à-dire que chaque commission se prépare à une éventualité. Nous sommes vigilants, nous sommes en train de voir et surveiller tous les points d'entrée au niveau d'Uvira.
Saïdi Moufitini, chargé des communications de la zone de santé d'Uvira. Et dans la ville de Bukavu, les autorités et personnes de bonne volonté sont appelées à apporter assistance aux victimes des incendies survenus au quartier Tchaï en commune de Bagira. Cette assistance peut être constituée des dons en vivres, vêtements, couvertures et appuis financiers dans le but de soulager les sinistrés et favoriser leur élèvement. Cet appel intervient à la suite d'un nouvel incendie survenu le lundi 22 juin dernier avec un bilan de 18 maisons parties en fumée et de 8 autres détruites lors des opérations visant à limiter la propagation du feu. Le président de la société civile Sounayo de Tchaï, Choukour Luekia, qui lance cet appel, parle également d'importants biens des valeurs calcinées, avec plus de 100 familles qui se retrouvent aujourd'hui sans abri. Ce nouvel incendie survient après un autre le 9 juin dernier, provoquant la perte de 101 maisons avec plus de 280 familles aujourd'hui sans abri. Choukour Luekia appelle la population à la prudence, particulièrement en cette saison sèche. Il demande aux habitants de surveiller les mouvements des enfants, éviter l'entreposage désordonné des produits inflammables, la cuisson nocturne, mais aussi la collaboration avec les cadres des bases afin de prévenir de nouveaux cas d'incendie et d'assurer une intervention rapide en cas d'urgence. Vous suivez Radio Mandeléo dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Pour que leur humeur cesse et que la vérité triomphe tout le temps dans nos vies.
Chaque jour,
pour que leur humeur cesse
et que la vérité triomphe.
Radio Mandeléo, une source crédible d'information.
Nous changeons de chapitre à présent. C'est depuis plus de 2 semaines maintenant que les abonnés des différentes maisons de télécommunications et vents au sud Kivu ont des difficultés à communiquer entre eux via leur téléphone. Ceci fait suite aux fortes perturbations du réseau, autant pour communiquer par des appels ordinaires ou encore via Internet. Les explications avec Myriam Mufano.
Dans plusieurs plaintes parvenues à la rédaction des radios Maïdéléo, des abonnés indiquent qu'il est possible de passer plusieurs heures essayant de prendre contact avec des proches, mais cela reste impossible. Nombreux parlent d'importantes pertes enregistrées, notamment des forfaits Internet et appels qui expirent avant leur utilisation, et d'autres évoquent du manque à gagner dans leurs activités quotidiennes qui exigent la communication. À ceci s'ajoute l'incapacité des nombreux opérateurs économiques à effectuer des transferts d'argent, des paiements électroniques et d'autres services essentiel dépendant de la connexion téléphonique. Cette situation concerne presque toutes les entreprises des télécommunications œuvrant en province, en l'instar des Orange, Vodacom, Africell et parfois Airtel. Pour Nicolas Loubala, consommateur et président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu, il est important que ces sociétés pensent à améliorer la qualité des services accordés aux abonnés et réparer le préjudice subi. Il en parle dans cet élément.
Une semaine sans communication, il est inconcevable. Il y a des gens qui achètent leur méga, mais on ne communique pas, alors qu'il y a des mégas de 2 jours, 3 jours, et tous ces mégas-là sont en train d'être perdus inutilement comme ça. Il y a les étudiants aujourd'hui qui préparent leur mémoire, mais le temps de faire les recherches, ça devient impossible. La communication entre les familles, et cela, ça se passe sous les impuissants des autorités au niveau de la ville de Bukavu, mais aussi sous silence des dirigeants des maisons de télécommunications. C'est pourquoi nous, comme Nouvelle Dynamique de l'Hospice Suivi, la province du Sud Kivu, nous appelons les autorités politico-administratives de pouvoir convoquer les dirigeants de ces maisons de télécommunications de pouvoir expliquer à la population pourquoi cette perturbation du réseau Internet.
Par ailleurs, l'organisation s'inquiète des conséquences sécuritaires liées à cette situation, estimant que les difficultés des communications peuvent limiter les alertes communautaires et compliquer la coordination des interventions en cas d'urgence.
et les habitants du territoire de Kabaré sont appelés à privilégier le vivre ensemble, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, et en cas de conflit, privilégier le dialogue et la médiation pour aspirer à la paix sociale. Cet appel intervient après un constat selon lequel plusieurs conflits qui peuvent être réglés à l'amiable entre membres des communautés sont plutôt amenés auprès des services de sécurité. Pour le leader communautaire et autres acteurs sociaux de la zone, référer les conflits auprès des services de sécurité ou des porteurs d'armes ne fait qu'aggraver les risques des tensions communautaires au lieu de favoriser le vivre ensemble. Ils appellent les habitants à éviter de s'accuser les uns les autres auprès des personnes armées, car indiquent-ils, cela ne fait que détruire les bonnes relations au sein de la communauté et peuvent provoquer la vengeance. Le leader communautaire rappelle qu'il existe des structures communautaires formées pour aider la communauté dans la gestion des conflits, d'où l'appel à faire recours à elle en cas de différend. L'un d'eux, Leban Fikiri, en parle dans cet élément.
Nous proposons à ceux que, en cas de conflit, puisque les conflits existent toujours, il y a tant de structures qui peuvent aider la communauté à transformer pacifiquement les conflits. Nous demandons à la population de s'orienter soit au bureau du groupement, au bureau du village. Il y a d'autres structures qui sont habilitées par rapport à la transformation pacifique des conflits, comme les cadres de dialogue et de médiation. Il y a aussi les bureaux de groupement, il y a les bureaux de la société civile, il y a aussi CDJP à la paroisse. Nous pouvons demander à la communauté aussi de chercher comment vivre ensemble.
Les bons Fikiri au micro de Radio Mandeleo, restituer les acquis de la formation organisée à Goma sur l'analyse et la gestion des conflits, la médiation et la cohésion sociale. C'est l'objectif d'une rencontre organisée par la Synergie des Femmes pour la paix et la sécurité, section du Sud Kivu. Détail, Hélène Aboudjeriri.
À cette occasion, les différentes méthodes de résolution pacifique des conflits discutées à Goma ont été partagées entre les femmes des organisations membres de cette synergie au Sud Kivu. Parmi les stratégies, l'ONUTS, le triangle APP qui permet de connaître les éléments qui nourrissent les conflits, mais également la méthode d'Oignon qui permet d'aller en profondeur du conflit et connaître ce qui motive réellement les parties au conflit. Selon Florence Mugisa, point focal de cette synergie au Sud Kivu, cette rencontre vaut son pesant d'or car les femmes ont un grand rôle à jouer dans la gestion des conflits. Ce qui justifie le fait qu'elles doivent être bien outillées pour bien jouer ces rôles. Florence Mugisa.
Pour bien gérer un conflit, il faut d'abord qu'on puisse connaître les sources de ces conflits, donc les causes profondes. Là, on peut maintenant se dire comment est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre approche pour pouvoir résoudre ces conflits-là ou bien pouvoir le gérer. Les organisations de femmes ont un rôle très important à jouer dans les conflits parce qu'au préalable, elles sont d'abord les personnes qu'on contacte en premier lorsqu'il y a des conflits au sein des familles et des fois, elles réagissent avant même d'avoir une formation ou une autre. Donc déjà, elles sont des actrices principales pour la gestion et la résolution des conflits.
Elle appelle les femmes à consolider les actions menées et à agir d'une manière coordonnée pour des impacts rapides dans la gestion des conflits au pays.
Et le secrétariat provincial interprofessionnel de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC Sud Kivu, réaffirme son engagement total aux côtés des travailleurs de la province, malgré les contextes actuels liés à la guerre. Cette structure l'a signifié mardi 23 juin, à l'occasion du 59e anniversaire depuis sa création. À cette occasion, la secrétaire provinciale interprofessionnelle de l'UNTC et présidente de l'intersyndicat du Sud Kivu, Ghislaine Chivava, fait observer que plusieurs travailleurs éprouvent d'énormes difficultés depuis 2025. Malgré cette situation, elle annonce que sa structure ne ménagera aucun effort pour faire sienne la lutte syndicale noble pour l'émergence des entreprises et la protection des travailleurs. La secrétaire provinciale interprofessionnelle de l'UNTC et présidente de l'intersyndicat du Sud Kivu, Ghislaine Chivava, en parle dans cet élément.
Malgré les défis, l'insécurité, la précarité, l'incertitude, gardons l'espoir d'un travail décent pour tous. L'espoir d'une protection sociale renforcée. L'espoir d'un dialogue social qui porte des fruits. L'avenir appartient aux travailleurs organisés et déterminés. Protégeons nos entreprises, car on ne parlerait pas du syndicat sans entreprise. L'INTC Site Kivu se solidarise et compatit avec les travailleurs du Site Kivu qui travaillent dans des conditions difficiles à cause de la guerre et d'autres ont perdu leur emploi. Notre force, c'est notre unité. Continuons à croire, à lutter, à construire. Joyeux 59e anniversaire à toute la grande famille INTC.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Les Léopards de la RDC tombent face à la Colombie en deuxième journée de la phase de groupe du Mondial. Résistant pendant l'entièreté du match, les Léopards, sur une action anodine de la Colombie, ont encaissé un but qui a d'ailleurs scellé la rencontre. Les Léopards entament vite le match dès la première minute sur une attaque rapide couronnée d'un tir non cadré du milieu de terrain Edo Kayembe. Pour ses débuts, sans surprise, Sébastien Desabre reconduit le même 11 de départ que face au Portugal avec un dispositif de 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, 2 attaquants et tout naturellement un portier qui n'est autre que Lionel Mpassi. Dès la 3e minute, il fait face à la furie des Colombiens qui menace le camp des Congolais en tirant soit à mi-distance ou de loin. Munoz pense marquer à la 8e minute mais sa réalisation est annulée pour hors-jeu suivi d'un contact litigieux sur Mpassi. À la 10e minute, James Rodriguez essaye mais bute sur Mpassi et son coéquipier Luis Diaz essaye de loin et voit son tir renvoyé en cornet par le portier de la RDC. Les Colombiens contrôlent le jeu, circulent bien la balle, s'offrent des transitions rapides et semblent être en champ devant, mais la RDC décide de souffrir en mettant un bloc derrière avec idée de procéder en contre pour inquiéter leurs adversaires. Malheureusement, les Léopards ne réussissent pas à se défaire du pressing des Colombiens. Ils font le dos rond pour garder leur cage inviolée. En face, la Colombie relâche jusqu'à l'épuisement des 45 premières minutes qui renvoient les 22 acteurs au vestiaire avec un score de parité des 0 buts partout. Au retour, la RDC veut proposer quelque chose d'autre en milieu de terrain avec un premier changement. Incapable de sortir la balle de derrière en première période, Moukaou cède sa place au cadet national Noah Sadiki. La Colombie a toujours le contrôle de la balle et essaie à la 49e minute, mais le tir de Diaz est dévié par le pied d'Mpassi, encore sur un bon coup sur cette action. Rien ne change dans le jeu, plusieurs changements sont effectués dans le camp de la République démocratique du Congo, mais l'irréparable arrive à la 76e minute avec le coup du sombrero réussi par Munoz qui tire et l'axial capoatique dévie la balle pour tromper le gardien Passi désorienté pour la première fois dans ce match. 1-0 est le score à cet instant. Les dernières minutes seront animées par les Léopards à la quête d'un but égalisateur mais sans succès. Le score d'un but à zéro va sanctionner la fin de la rencontre, de quoi offrir à la Colombie les 3 précieux points du match et un maximum de 6 points en 2 sorties dans cette phase de groupe. La Colombie est qualifiée automatiquement pour le tour suivant de la compétition. À la faveur de sa victoire, 5 buts à 0 devant l'Ouzbékistan, le Portugal est deuxième avec 4 points. La RDC garde un seul point dans sa gibecière et affrontera l'Ouzbékistan le dimanche à 1h30 du matin. Les Léopards devront s'imposer pour passer au tour suivant. Quelle analyse faire de ce match? Notre consultant Benny Comero nous donne ses impressions à chaud.
La Colombie vient de réussir à faire mieux que le Portugal en battant la RDC sur la marque de 1-0. Match très difficile pour la RDC qui a subi 9 tirs cadrés grâce à un excellent Lionel Mpassi qui a arrêté 8 tirs. La RDC a pu tenir pendant ce match. Mais ça a été très compliqué parce que offensivement la RDC n'a pas existé tout simplement avec 0 tir cadré pendant la première mi-temps, un seul tir cadré en fin de match en deuxième mi-temps, très insuffisant pour inquiéter cette bonne équipe de la Colombie. Il reste un match le dimanche contre l'Ouzbékistan pour essayer de se qualifier à la prochaine phase, essayer de prendre les 3 points. Pour ce soir, ce n'est pas passé, la RDC n'est toujours pas qualifiée, c'est la Colombie qui est maintenant qualifiée.
La compétition se poursuit ce mercredi 24 mai avec entre autres le match entre la Suisse et le Canada.
La revue de presse, Radio Mindélo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La réapparition des barrières illégales sur la route nationale numéro 5 Bukavu-Uvira, quelques jours seulement après la réouverture du trafic, les conditions difficiles dans lesquelles vivent les personnes atteintes d'albinisme dans les groupements des Miti, Bugore et Irambikatana en territoire de Kabare, et les conséquences causées par l'exploitation illégale du sable dans le territoire d'Idjui font partie des sujets commentés par la presse mardi 23 juin 2026. La revue de presse avec Alain Kabika.
Quelques semaines seulement après la réouverture du tronçon routier Bukavu-Uvira sur la route nationale numéro 5, des barrières illégales ont de nouveau été érigées sur cet axe stratégique reliant la ville de Bukavu sous contrôle de l'AF-123 aux zones tenues par les FARDC et certains groupes Wazalendo, titre le site estnews.info. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès des usagers, des sommes variant entre 1500 et 5000 francs congolais sont exigées à différents points de passage par des forces gouvernementales et leurs alliés. Certains voyageurs affirment avoir déboursé jusqu'à 23 000 francs congolais au cours d'un seul trajet, dénonçant une pratique qui alourdit davantage les conditions de déplacement dans cette région. D'après les mêmes sources citées par ST News, ces barrières ne sont pas fixes. Leur emplacement change régulièrement, tout comme les montants réclamés, compliquant ainsi les contrôles de la situation par les autorités compétentes. Réagissant à cette situation, les mouvements citoyens Mathieu Ziaraïa appellent les autorités civiles et militaires à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces pratiques. Dans un autre sujet, le site internet Kabare Actu titre « Les personnes atteintes d'albinisme vivant dans les groupements des Miti, Bugore et Irambikatana en territoire de Kabare lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour une prise en charge humanitaire face aux difficultés accrues causées par la guerre qui affecte l'est de la République démocratique du Congo depuis plus d'une année. » Selon ces médias, l'appel est formulé par Mugisho Ndabali, responsable des albinos des groupements des Miti, Bugore et Katana au cours d'un entretien téléphonique accordé à Kabare Actu le week-end dernier. Selon lui, les personnes atteintes d'albinisme traversent actuellement une situation difficile marquée par la précarité et les manques d'assistance. Il rappelle qu'avant la dégradation de la situation sécuritaire, plusieurs organisations non gouvernementales apportaient un soutien aux personnes atteintes d'albinisme, leur permettant de faire face à certains besoins essentiels de leur ménage. Face à cette réalité, Mugisho Ndabali sollicite l'implication des autorités, des organisations humanitaires et des partenaires afin de venir en aide aux albinos affectés par les conséquences de la guerre. Par ailleurs, il plaide également pour les retours de la paix dans la province du Sud Kivu, estimant que la stabilité demeure la condition sine qua non pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Bouclons cette revue de presse avec le site lapresseafricaine.net qui souligne que l'exploitation abusive du sable dans les territoires d'Idjui au Sud Kivu ravive encore des émotions au sein de la population après la mort d'un transporteur en plein exercice de son travail mardi le 16 juin 2026 dans les villages Karulo, groupement Pene dans la chefferie Ntambuka. La synergie des associations des dockers, chargeurs et déchargeurs des engins flottant sur les lacs Kivu affirme que 3 dockers ont perdu la vie entre mai et juin 2026. Charles Mouhara, coordonnateur de cette structure, cite notamment la consommation pendant les heures de service des boissons fortement alcoolisées comme cause principale de ces décès. Il déplore de constater que des vendeurs de ces substances alcooliques s'improvisent dans chaque coin où il y a exploitation du sable et les dockers en prennent à longueur de journée alors qu'ils doivent charger des sacs de sable jusqu'au soir dans des barges. Charles Mouhara invite les autorités à prendre des mesures qui s'imposent pour interdire la vente et la consommation de ces produits dans les zones d'exploitation du sable. La société civile dit du pour sa part insiste sur le respect des normes établies par les lois du pays autour de l'environnement et les codes miniers en vigueur afin de sauver l'île de l'exploitation abusive du sable et d'identifier tous les responsables de la destruction de l'environnement afin qu'ils répondent de leurs actes, conclut ce site internet d'information.
Communiqué avant la fin de ce radiojournal, plusieurs personnes se confrontent à un problème sérieux d'utilisation de la première langue internationale en traversant les frontières aujourd'hui. Tous les pays amis de la RDC sont presque des pays anglophones. Que feras-tu comme les Américains seront partout dans le pays en y investissant? Quelle sera ta langue de communication? Le centre de formation BCLS donne l'occasion à toute personne désireuse d'apprendre l'anglais, le français, accompagnée d'une formation accélérée en informatique, de venir au complexe scolaire La Pro Angouba, non loin du Feu Vert. Pendant cette période des vacances, le centre a réduit sensiblement le prix pour donner l'occasion à tout le monde d'y accéder. L'usage de l'anglais est un atout dans le monde des affaires aujourd'hui. 3 vacations disponibles jour 8h à 12h, après-midi 13h à 15h, soit 16h à 18h. Les inscriptions et la formation se tiennent dans les enceintes du CES La Pro chaque jour de 8h à 16h. À la fin de la formation, un certificat de participation sera livré aux candidats. Slogan, apprendre les langues, maîtriser la technologie, réussir l'avenir. La formation débute le lundi 6 juillet 2026. Bonjour Sangwa Passion, directeur du centre, signe ce communiqué. Par ici prend fin ce radio-journal. Partant Boussi mais assurer la mise en onde. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.